Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec l'économiste Pierre Rondeau, le journaliste Fred Hermel et l'infectiologue Robert Sobag. Dans un instant, on va parler d'espionnage. D'espionnage à la maison. Regarder le portable de son conjoint, est-ce normal ou malsain? On va se poser cette question, vous pouvez y répondre au 3216 et sur l'appli RMC. Il faut savoir que 40% des Français l'ont déjà fait. RMC Conso, ce sera à 14h30. On va parler du retour en force des consignes pour le verre. Et il y aura bien sûr, Rémi, à 14h35, les immanquables.
On parlera notamment du niveau des candidats pour devenir enseignant en école primaire.
Et ça baisse.
C'est un petit peu inquiétant. Ouais, c'est même plus que ça. Et puis on parlera du business du jour. Vous vous souvenez la pièce de 2 euros pour les JO commémoratifs qui a été distribuée aux élèves? On la retrouve sur des sites de vente aux enchères. Bah oui, il fallait s'y attendre.
Mais qu'est-ce qu'on avait dit quand on avait fait le sujet?
On avait dit
si on était parents, on les prendrait ces pièces. Voilà ce qui est arrivé. Les parents les ont prises et les ont mises sur des sites d'enchères.
Maman, elle est où ma pièce?
C'est formidable. Et 14h50, Vincent Serroussi, notre humoriste pour Serroussi, n'a pas tout compris.
RMC, Estelle Midi.
14h04 sur RMC, on va s'intéresser aux chiffres du jour. Selon une étude IFOP, 40% des Français ont déjà regardé le portable de leur conjoint. L'idée étant évidemment de débusquer un éventuel mensonge de la part de son partenaire. On appelle ça le snooping. Et cette pratique est surtout répandue chez les femmes et chez les jeunes, Rémi.
Ouais, c'est ce que dit une récente étude IFOP. Donc les femmes sont plus nombreuses. 44%, bravo, que les hommes.
On a plus de motifs d'inquiétude.
Que les hommes, 35% à l'avoir fait au cours de leur vie. Une surveillance particulièrement répandue, tu l'as dit, chez les jeunes, chez les moins de 35 ans. Attention, accrochez-vous. Chez les moins de 35 ans, 67% des femmes et 56% des hommes admettent avoir déjà fouillé dans le téléphone de leur conjoint. Parmi les personnes ayant déjà fouillé dans le téléphone de leur partenaire, la moitié déclare avoir découvert quelque chose.
Mais quand tu cherches, tu trouves.
Voilà, le mensonge est la principale réponse citée. Voilà, tu m'as dit quelque chose et puis tu découvres sur ton portable que c'est pas vrai, 35%.
C'est moins grave.
Suivi par des conversations ambiguës.
Oui, bah tu parles.
Ou avec une forme de séduction dans 29% des cas et du maintien d'un lien avec un ou une ex-partenaire. 21% des cas. En cherchant, tu l'as dit, on trouve. Près d'une personne sur cinq a déjà découvert des signes ou des preuves d'une infidélité dans le téléphone portable de son conjoint. Reste que la pratique, il faut le savoir, hein, elle est illégale. En tout cas, elle peut l'être, parce que si le conjoint dépose plainte, depuis la loi contre les... Depuis la loi contre les violences conjugales de 2020, l'espionnage numérique est interdit et punissable d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Non, mais là, c'est quand tu mets un mouchard, un petit logiciel espion et tout.
Oui, mais si par exemple...
Si c'est juste regarder un texto...
Regarder un texto, on est d'accord. Maintenant, si ça se passe mal dans le couple, très mal, et puis qu'il y a... Par exemple, le monsieur ou la dame, peu importe, souvent c'est les dames, dépose plainte pour harcèlement, par exemple, si ça se passe très mal, qu'elle se fait harceler par son compagnon, il faut savoir que le fait d'avoir fouillé dans le téléphone...
Ça peut modifier les conditions du divorce. Ça peut modifier les conditions du divorce. Ça.
Alors, regardez dans le portable de son conjoint, est-ce normal ou est-ce malsain? Robert Sobag.
D'abord, je crois qu'il faut voir ce que c'est qu'un individu. Un individu, il a une structure. Vous avez des gens qui sont... Qui peut être la jalousie. La jalousie, ça existe.
Bien sûr.
La structure un tout petit peu paranoïaque, ça existe aussi. Donc, c'est effectivement malsain, mais je pense que c'est inévitable. Je pense que c'est inévitable parce qu'il y a toujours des doutes qui peuvent s'exprimer dans un couple. Et quelquefois, il y a à la fois la curiosité et la jalousie qui jouent. Ah, tiens, beaucoup de messages, je trouve que, vous voyez, elle me parle, si je parle d'une femme, elle me parle d'une manière extrêmement différente que les autres fois. Donc il se passe peut-être quelque chose.
Elle rentre à 2h du matin tous les soirs.
Non, mais il se passe quelque chose. Donc je veux dire, c'est difficilement... Ça existe, la jalousie. Le sentiment de jalousie, il existe. Et donc quand il y a un moyen, effectivement, de vérifier, mais effectivement, ça peut devenir extrêmement malsain. D'un autre côté, je crois qu'on a tous droit à un jardin secret. Et le jardin secret, il peut être, on peut avoir des messages sans que ça joue un rôle particulier dans le couple.
Enfin, et de maintenir. Cachez, c'est déjà, y a un problème.
Mais non, mais pourquoi vous regardez toujours le noir? Vous pouvez avoir un jardin secret tout à fait sain.
Mais Robert, ne faites pas le oui-oui, là.
Mais je fais pas.
Vous me direz de ravi de la
fraîche. Je fais pas le oui-oui. Chaque individu a le droit, si vous voulez. Mm. Alors, effectivement, le portable n'est peut-être pas l'endroit où on peut garder un certain nombre de contacts, de relations, sans qu'elles soient absolument malsaines.
Donc, je pense que c'est. Bon, vous l'avez déjà fait ou pas, Robert?
Voilà. Répondre à la question, monsieur Sebastien.
Ah bon? Non.
Oui.
À vous, Robert.
Oui, dans certaines circonstances, mais ça n'a pas été très loin.
C'est-à-dire?
Écoutez, ne jouez pas les farouchés.
Non, jamais. Excusez-moi, Robert.
Moi, j'ai le tort. J'ai le tort d'être franc. Oui, ça m'est arrivé une fois, et ça c'est pas systématique.
Mais comment vous avez trouvé le code?
Une fois. Non, écoutez, on n'est pas dans un tribunal. Je suis pas chez un psychanalyste.
Mais c'est
je suis pas. Non, non, mais.
J'aurais jamais imaginé.
Non, je veux pas servir.
Je veux pas servir.
Non, non. Ça vous déçoit. Je suis un individu comme tout le monde. Vous pouvez avoir un moment.
Non,
vous pouvez avoir un moment des problèmes de jalousie, des problèmes qui peuvent se passer entre individus.
Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Non, j'ai rien trouvé, mais je l'ai fait.
Vous avez mal
j'ai cherché. L'honnêteté. Bon, merci. Non, mais j'ai l'honnêteté de vous dire oui, je l'ai fait.
Mais
je dis que c'est malsain, mais c'est inévitable.
Est-ce qu'elle a regardé?
Je pense pas.
Ouais. De toute façon, vous effacez vos messages. Non, mais je rigole, Robert.
Non, mais vous rigolez, mais vous essayez de me faire de distiller un certain nombre. Voilà, regardez, tout le monde se marre. Je veux bien jouer ce rôle, d'accord.
Pierre Rondeau, est-ce que regarder, c'est espionner?
Bah oui.
Non, mais
comment
je demande,
est-ce que...
Bon, c'est pas tout à fait pareil, moi, je trouve.
Enfin, attends, parce que, attends, c'est quoi? C'est genre regarder d'un coin de l'œil comme ça? Ou c'est vraiment chercher
c'est avoir un œil dessus, quoi.
Bah non, c'est attiré par la lumière, tu vas dire.
Oui, c'est libre,
je regarde, et je regarde ce qui se passe. Oh, tiens, notification, tiens, qui c'est Cindy? Et voilà, c'est derrière, c'est des conséquences.
Cindy.
Oh là là, Cindy.
Déjà, tu regardes pas.
Cindy.
Déjà, c'est un
indice. J'imagine.
Non, mais Pierre, vous l'avez jamais fait, vous?
Moi, j'ai fait pire. Je crois l'avoir déjà dit sur le plateau, mais moi, j'avais créé un faux compte Instagram pour aller espionner.
Waouh.
Ouais.
Ah oui, il y a un silence qui se.
Là, c'est du pro, là. Il est pro, là.
Moi, j'ai fait ça. Alors, moi, par le passé, je pouvais être considéré comme ce que les jeunes appellent un stalker.
Ah oui, stalker, on explique, ça veut dire qu'en fait, vous regardez les moindres faits et gestes de la personne que vous convoitez.
J'avoue qu'effectivement, donc c'est pour ça que je rejoins un peu, j'ai fait de façon. J'ai rigolé, mais c'est vrai que Robert, je rejoins un tout petit
merci
peu le, tes propos.
Genre, vous avez créé un faux compte pour espionner la personne
aller, oui, pour aller. Non, mais pour. Non. Non pas une fille avec qui je sortais, une fille avec qui je voulais sortir.
D'accord, il enquêtait. Mais pourquoi faire ça alors?
Il enquêtait.
Pour aller voir son profil sans qu'elle sache que c'est moi.
Ah ouais, d'accord, mais là c'est vraiment tordu quand
c'est
même.
Très tordu, hein. Là, ça vraiment ça révèle de la psychanalyse.
Et vous, Estelle, ça fait peur?
Non, moi je fais pas ça. Non, je vous assure, mais non.
Je vous renvoie.
Bah, déjà, j'ai pas le code, mais non.
Ça vous est jamais arrivé?
Non, mais je crois que j'ai pas.
Attends, tu m'as posé la question. Regardez, tu as jamais vu le portable s'allumer? Regardez.
Ah bah si, là je regarde. Non, mais ça n'a rien à voir. Non mais en fait je pense que effectivement Rémi le disait, plus t'es jeune, plus en fait après t'as passé l'âge, tu fais confiance et puis si un jour tu trouves tant pis. Mais je veux dire voilà.
C'est vrai que l'âge joue un rôle. Je pense que l'âge joue un rôle.
Fred, vous qui êtes très très axé sur l'honnêteté, est-ce que quand même vous comprenez, est-ce que c'est humain pour vous d'avoir envie d'en savoir plus sur l'autre quoi?
Oui. Ça peut être humain, je peux le comprendre. Moi je ne le fais jamais parce que je pense qu'on risque de s'inquiéter pour rien. Parce qu'on peut mal interpréter des choses.
Quand
on voit des messages.
Souvent, quand tu t'inquiètes, c'est que le verre est dans le fruit.
Mais non, parce que quand tu as un message hors contexte, en ne connaissant pas la personne, tu peux t'inquiéter pour rien, tu peux te faire du mouron, tu peux. J'aime les vieilles expressions françaises.
Tout à fait, tu as raison.
Oui, on peut se faire du mouron, des fois, pour rien du tout, en disant mon chéri, puis non, mais il se trouve que. Ça n'a rien à voir, enfin, tu vois.
Mais le doute, c'est terrible.
Mais
le doute te mine, donc il faut que tu vérifies.
Comme dit Estelle, quand tu veux trouver, tu trouves. Mais le problème, c'est que tu veux trouver et en fait, tu trouves un truc qui n'a rien à voir et qui ne signifie pas que t'es cocu.
Oui.
Et toi, tu vas terminer. C'est pour ça. Parfois, c'est-à-dire que et après, comment tu fais pour dire à l'autre, mais c'est terrible.
Il y a pas d'amour.
Pour éviter les malentendus, il faut pas regarder.
Mais il n'y a pas de grand amour sans jalousie. La jalousie, c'est un sentiment humain. C'est terrible, ça te mine, la jalousie.
Robert, tu vas alimenter ta jalousie en regardant des messages qui n'ont qui n'ont absolument rien à voir avec un adultère.
Non, c'est vrai.
Enfin, ça dépend.
Bah oui, mais non, mais il y a quand même plein de messages qui ne.
Mais on ne saura pas. Moi, je comprends tout à fait si. Moi, c'est pour ce que je fais.
Tu vois, parce que moi, c'est. Moi, je
veux faire ami.
Ah non, non, non. Je peux. Moi, mes amis, je les appelle ma chérie, mon amour et tout ça. Mais ce sont des amis avec qui.
On peut interpréter les choses. Je suis d'accord avec.
Avec qui c'est jamais rien passé.
Mais c'est vrai que ça fait peur.
Avec qui il ne se passe pas jamais rien. Mais c'est une manière de parler. Et donc, ta fiancée, elle voit.
Absolument.
Pourquoi tu l'appelles mon amour? Mais on se connaît depuis 30 ans.
Bah oui. Voilà. Non mais c'est totalement d'accord avec Fred.
Et d'ailleurs, on est du Nord, on est droit.
Mais non, c'est mais ça. C'est vrai, mais c'est hyper dangereux.
Et d'ailleurs, on a plein de messages sur l'appli RMC à ce sujet, Rémi.
Le temps que je rallume mon ordinateur, aïe. Voilà.
Hein. Bah, vous voulez que je prenne,
Laurent sur l'image.
Regarde, Guy, il a acheté.
Regardez les messages.
Guy nous dit, si on a besoin d'espionner le téléphone de son conjoint, il est temps de le quitter. Il n'y a plus de confiance, d'amour, il faut se faire soigner.
Paroles,
ce que dit Chris paroles, aussi, oui. Jamais de la vie je ne regarderai le portable de mon compagnon. C'est un vrai manque de respect et de confiance. Et puis il y a Paytac qui dit c'est pour ça qu'il faut mettre le nom d'un garçon quand c'est une fille dans son répertoire.
Mais bien sûr, tu mets jamais le bon nom. Et ben non, mais tu dis ben. Non mais parce que si tu trompes quelqu'un avec ton téléphone, tu vas pas mettre un nom de fille, tu vas mettre un nom de garçon. Évidemment, et tu mets à côté RMC pour qu'on croit que c'est un collègue de bureau.
Arrête, j'ai plein d'RMC dans mon portable.
Chacun fait ce qu'il veut. Laurence est avec nous et Laurence nous appelle de Guerre dans le Morbihan et elle est commerciale. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laurence.
Et Laurence, vous faites partie, vous, des 4 Français sur 10 qui ont déjà regardé le portable de votre conjoint. Vous y avez trouvé quelque chose ?
Alors en fait, j'ai pas cherché comme ça. Hein. J'ai eu des relations où j'ai absolument, je déteste l'idée de fouiller dans un portable.
Ben oui.
Mais le bouche à oreille a fait que ça m'a amené des doutes sur une relation assez sérieuse où j'ai voulu fermer les yeux, ne rien voir. Et puis il y a un moment, c'était trop douloureux pour moi. Donc j'ai voulu la ouvrir les yeux et je pense que j'ai bien fait parce que je me suis aperçue que ce qu'on me disait c'était vrai. Et donc j'ai pris le portable et j'ai vu des choses. J'en suis arrivée même à voir qu'il était sur des sites de rencontres et que c'était personne qui l'appelait. Donc il fallait que ce soit clair pour moi parce que c'était la rupture. Voilà, s'il se moquait de moi comme ça dans le mensonge, il n'était pas digne de moi. Je suis désolée, je vais le dire comme ça, mais c'est ça. Et quand à un moment je lui ai dit je sais ça, il me fait mais tu fouilles dans mon portable. Je fais ouais, je fouille dans ton portable parce que voilà, il y a ça, 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 ça. Maintenant, tu vas me dire quoi? Que je mens encore, que je me fais des histoires? J'ai jamais fouillé dans un portable d'un mec, jamais. Mais toi si. Et maintenant, les choses vont être claires. On va s'arrêter là parce que moi, je peux pas vivre avec toi comme ça.
Bien sûr.
Voilà. Donc, en fait, quelquefois, ça peut aider à accélérer une rupture si la personne se moque de vous. Parce que moi, je ne vis pas avec quelqu'un qui se moque de moi.
Mais au fond de vous, Laurence, vous le saviez?
Mais je l'ai su et j'ai laissé même, j'ai pas été brute de pomme, hein, j'ai pas été impulsive, j'ai laissé voir si c'était occasionnel, enfin je lui en parlais quand même, où il me disait mais non, mais tu te fais des idées, enfin bon j'étais l'idiote de service et il y a un moment si vous voulez, quand j'ai réuni suffisamment d'éléments pour dire là tu vas voir l'idiote de service, maintenant elle va te mettre devant le fait accompli. Et j'ai même été sur son ordinateur, mais chose que je fais jamais, où j'ai découvert des trucs horribles pour moi, en tous les cas. Et je vois pas ce qu'il faisait avec moi. Il n'y avait pas à être avec moi, quoi. S'il a envie de s'amuser, il s'amuse, mais c'est sans moi. Faut pas être avec des, parce que ça brise le cœur.
Ça a été salutaire pour vous parce que vous l'avez quitté et vous aviez peut-être besoin de ça pour le quitter. Et vous dites, voilà, vous l'avez fait une fois et pas deux, quoi.
Ouais. Ah oui, j'ai jamais fait ça avec deux, trois, mais j'ai pas mon intention, mais. Si j'ai pas confiance dans l'homme, voilà, c'est pas la peine. Mais vraiment, on a quand même un sens féminin où on sent des fois des choses. Alors, soit on ferme les yeux et on continue, et si son conjoint vous trompe, et puis on s'en fiche, chacun gère son problème à sa manière. Mais moi, en tous les cas, c'est pas mon cas, donc ça m'a aidé. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup, Laurence, en tout cas, de nous avoir donné ce témoignage dans Estelle Midi et notre invitée sur ce débat. Quel plaisir de l'avoir, c'est Catherine Solano, sexologue et cofondatrice de la plateforme de télésanté Doctical. Bonjour, Catherine.
Bonjour, Estelle. Bonjour. C'est gentil d'accueillir comme ça.
Bah oui, mais on est toujours heureux de vous avoir, Catherine. Alors, on vient d'entendre le témoignage de Laurence. Bon, finalement, heureusement qu'elle a regardé. J'imagine, Catherine, que dans tous les patients que vous recevez, il doit y en avoir quand même énormément qui ont fouillé dans le portable de leur compagnon.
Oui, oui, c'est sûr que ça arrive, mais j'ai bien aimé ce témoignage de Laurence parce que je trouve qu'elle a une réaction très saine. C'est-à-dire que c'est pas sain de fouiller, d'espionner, mais quand on a le cœur net, c'est pas sain de rester des années en se voilant la face si ça vous rend malheureux et que c'est une relation qui est pas équilibrée, quoi. Donc, ça dépend, c'est difficile de juger chaque cas parce que ça dépend vraiment de la situation, en fait.
Mais alors, est-ce qu'on peut regarder dans le portable de son conjoint ou franchement, c'est un truc qu'il faut absolument éviter?
Déjà, il y a une différence entre voir quelque chose, vous voyez, quand il y a une notification qui apparaît, regarder, chercher et espionner. C'est pas vraiment la même chose. Et puis, ça dépend pourquoi on cherche, si on cherche. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont angoissées, jaloux, pathologiques, qui n'ont aucune confiance en eux, qui ont peur que l'autre les trompe, peur de pas être aimé, disent s'ils rencontrent quelqu'un, ça sera forcément quelqu'un de mieux que moi. Donc, qui contrôlent tout. Et ça, c'est pas normal. Là, il faut faire une psychothérapie. Il y a des personnes qui contrôlent tout parce que c'est leur caractère, qui sont hyper maniaques, organisées, et c'est des personnes angoissées. Là aussi, il faudrait faire une thérapie. Et puis, il y a des personnes qui sont infidèles tout le temps et qui croient que l'autre est pareil, mais qui n'ont pas envie d'être trompées. Si vous voulez, ça, c'est pas si rare. Je vois ça aussi. Et puis, je vois aussi des personnes qui ont déjà été trompées une fois. Et du coup, qui
sont échaudées
après. Voilà. Exactement, comme vous dites, qui ont peur que ça recommence parce que ça les a fait souffrir. Et puis, comme Laurence, il y a des personnes qui se disent, moi, j'ai toujours fait confiance, mais là, j'ai des doutes, des signaux faibles, comme dit un de mes patients, qui s'accumulent. Et là, je me dis, je vais pas faire l'idiote pendant des années. Parce que j'ai une patiente qui a fermé les yeux pendant des années en se disant, non, je vais pas espionner. Puis au bout de 7 ans, il y a un de ses amis qui a suivi son copain, qui en fait était marié et avait une femme et des enfants, et qui lui disait qu'il était célibataire, vous voyez.
Donc, c'est horrible.
C'est dommage quand même de perdre 7 ans de sa vie avec quelqu'un qui vous ment tout le temps.
Ouais, puis alors là c'est pas un petit mensonge, c'est plutôt un très gros mensonge. Catherine, on va écouter tout de suite le témoignage d'Alan qui est avec nous. Alan qui est boulanger du côté de Nantes. Bonjour Alan.
Bonjour à tous.
Bonjour Alan.
Alan, est-ce que vous regardez dans le portable de votre conjointe ou est-ce que ça c'est quelque chose qui est tabou pour vous?
Pas du tout tabou. Alors là, c'est pas là-dessus qu'on a des problèmes.
Ah. Mais c'est-à-dire pas tabou, c'est-à-dire que vous regardez dans son portable sans vous gêner, quoi.
Je regarde pas sans me gêner. En fait, on en parle de base. On a beaucoup de communication avec ma copine. Et en fait, y a des fois, on n'a pas notre téléphone sur nous. Du coup, on demande à l'autre de prendre son téléphone. Et en fait, au fur et à mesure, on a les codes. On peut regarder et tout. Et du coup, on n'a jamais vraiment eu de problème avec ça.
C'est-à-dire que vous avez les codes de votre copine et elle a vos codes?
Ouais, totalement.
Ah ouais, mais c'est-à-dire que vous avez pas de jardin secret, Alan, finalement?
Pas vraiment, mais on pense que notre couple en fait se base sur l'acceptation de l'autre et de tout ce qu'on fait avec l'autre, en fait.
Ouais, mais ça veut dire, Alan, alors je me fais l'avocat du diable, mais quand vous savez que vous avez les codes de l'autre et que quand vous savez que l'autre peut regarder votre portable, a priori, vous allez effacer les messages compromettants s'il y en a ou avoir un deuxième portable, en fait.
Pour ça, faudra en avoir, mais du coup, on en a pas pour le coup.
Parce que vous vous aimez.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est beau. Mais vous prenez pas ça quand même comme un manque de confiance l'un envers l'autre?
Non, plus, au contraire, plus comme de la confiance.
D'accord, la confiance, plutôt, ouais, ça. Ouais.
Alors, justement, ouais. Catherine Solon, est-ce que c'est bon, ça, dans un couple, finalement, d'avoir les codes de l'autre et de pouvoir rentrer dans son espace privé? Catherine?
Pourquoi pas si on se fait confiance? Oui? Vous
d'accord. Là, on vous entend. Vous êtes revenu là.
Ouais. Je disais pourquoi pas si on se fait confiance, mais il faut bien voir qu'on peut toujours avoir quelque chose à cacher, et c'est pas forcément une aventure extra-conjugale. Moi, j'ai vu des personnes qui disaient j'ai des hémorroïdes, j'ai rendez-vous chez le proctologue. J'ai pas trop envie de le dire à mon conjoint parce que c'est pas très glamour. je vais me faire des injections de Botox. J'ai des copines qui ont fait ça. Je lui dis pas.
Il le voit quand même
après.
C'est pas la peine de payer.
Comme le compte bancaire joint. C'est-à-dire le téléphone. Le compte bancaire, on a confiance. Oui. Quand vous avez un compte bancaire joint avec.
Non, mais moi, j'aimerais pas donner. Même si.
Je parle du téléphone. Oui. Voilà.
Mais après, je trouve que le téléphone, on y met beaucoup de choses, en fait. On y met des photos, on y met des souvenirs. On y met, bien sûr, il y a les messages, mais il y a plein d'autres choses. Il y a des sites que vous consultez. Je trouve que le téléphone, ça fait. En fait, c'est un peu une extension aussi de nous-mêmes, finalement. Aujourd'hui, notre téléphone, c'est bien ou c'est pas bien. Mais c'est vrai que moi, ça m'embêterait que quelqu'un y ait accès. Même quand mes enfants sont là avec mon téléphone, ça me saoule, en fait. Je ne sais pas qui c'est mon téléphone.
Oui, moi je trouve que les enfants doivent pas avoir accès au téléphone des parents parce que, enfin, déjà parce qu'ils peuvent le casser et là vous allez être bien embêtés. Ensuite parce que c'est pas très bon pour eux d'être sur les écrans. Et puis comme vous dites, il y a des choses personnelles. Moi ça m'a fait rigoler, mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Comme je suis sexologue, j'ai un de mes patients à qui j'ai demandé de faire des photos de son pénis en érection. Pourquoi? Parce qu'il a un implant pénien et je voulais montrer à d'autres patients ce que c'était et que c'était vraiment que ça se voyait pas. Bon, ben c'est sûr que mon conjoint a regardé avec moi, je regardais mes photos, il me dit mais qu'est-ce que c'est?
Bah, il connaît votre métier quand même. Il connaît votre métier.
Quand on est sexologue, ça peut s'expliquer.
Mais oui,
quand on ne l'est pas, c'est plus compliqué.
C'est la bonne excuse.
Même vos copines, je me dis zut, ça m'embête de les supprimer parce que j'y tiens, ces photos.
Ah, bah oui, bah je comprends, Catherine. Il y a des petites photos comme ça, vous voyez
On n'est pas là pour juger.
C'est les photos doudou.
Juste avant de dormir.
Oh bah faites-vous un album et mettez-le loin, Catherine.
C'est vrai. Non, mais ça peut être aussi tout simplement, j'ai appelé ma mère, il déteste ma mère et j'ai pas envie de lui dire quand je l'appelle. Ça peut être des choses très banales, quoi, par exemple.
Ouais, là c'est moins grave, quoi, du coup. Enfin, je veux dire. Mais en fait, Catherine, juste pour clôturer le débat, donc voilà, c'est pas regarder le portable de son conjoint. C'est pas malsain, quoi. En fait, il peut y avoir des fois où on regarde et ça fait pas de vous un espionneur, quoi.
Non, fouiller, espionner tout le temps, c'est malsain. Le faire quand on a un gros doute, c'est normal, c'est humain. Mais regarder par hasard ou quoi, ça n'a rien de
choquant, quand même.
Merci beaucoup Catherine Solano en tout cas d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Catherine Solano, sexologue, donc on l'a bien compris, et cofondatrice de la plateforme de télésanté d'Optical. Merci également à Alan d'avoir témoigné. On termine avec des messages, Rémi, et les résultats de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Avec ce message de Brian qui nous dit « Il est déjà tellement usant de lire et de prendre connaissance de tous les messages et les notifications de son propre téléphone dans ce monde ultra connecté. Alors pourquoi s'infliger de regarder en plus le téléphone de son conjoint ?»
C'est pas faux.
Très pratique.
Oui, c'est presque trop pratique. Le résultat de notre sondage, Rémi.
Fouiller le portable de son conjoint. Est-ce que c'est malsain ou est-ce que c'est normal? C'est malsain. Pour 85% de ceux
qui sont
nos réseaux sociaux.
Ah, mais les gens peuvent trouver ça malsain et regarder quand même, hein, Robert. Hein,
voilà, d'accord.
L'un ne gêne pas l'autre.
Ah, là.
Évidemment. Dans un instant, RMC Conso avec Charlotte Méritant, on parlera du retour en force des consignes pour le verre. On verra si ça peut rapporter gros ou pas. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis. 14h29 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et on parle conso tous les jours à cette heure-ci avec Charlotte Méritant, RMC Conso.
Estelle Midi. RMC Conso.
Et aujourd'hui, Charlotte, on s'intéresse au retour de la consigne de verre, la fameuse consigne disparue dans les années 90.
Oui, l'idée est la même qu'à l'époque, hein, c'est ramener ces emballages en verre en l'échange de quelques centimes d'euros pour que l'emballage soit nettoyé, réutilisé, remis dans le circuit, etc. Et c'est vrai que depuis quelques années, on voit apparaître des start-up qui imaginent en fait de nouvelles manières de remettre la consigne au goût du jour avec des améliorations permises par les technologies et pour mieux s'adapter à nos habitudes de consommation actuelles.
Et ça vient d'où ce retour de la consigne ?
À la base, ça vient d'une loi, c'est la loi anti-gaspillage de 2020 qui fixe des objectifs. En 2024, l'objectif, c'est 6% d'emballages réemployés. En 2027, 10%, sachant que jusqu'ici, on était entre 1 et 2%. Vous voyez, pour l'instant, c'est vraiment minime. Il y a énormément de chemin à faire, mais ces startups sont hyper motivées et redoublent d'inventivité pour nous donner envie de nous y remettre.
Mais alors, elles font quoi, par exemple, ces startups ?
Alors, il y a des startups comme Drink Dong, par exemple, ou La Tournée, pour pallier le problème de poids des emballages, pour pallier le problème de l'oubli qu'il peut y avoir d'aller rapporter ces bouteilles et surtout la flemme, qu'on se le dise en vrai, la flemme des consommateurs d'aller ramener ces bouteilles, eh bien eux, ils livrent les courses directement, ils récupèrent les bouteilles chez vous.
Pas mal.
Et donc, en fait, finalement, vous pouvez, depuis votre canapé, utiliser le service de la consigne. Il y a aussi une initiative qui a été lancée dans la grande distribution. Alors, on est vraiment aux prémices de ça, puisqu'il y a 14 hypermarchés qui sont concernés en Ile-de-France. C'est un partenariat entre Petrel et Système U et Leclerc, et quelques marques également, donc Coca-Cola, Nestlé Waters, Météor, etc.
Alors, ce qu'on veut tous savoir, c'est combien ça rapporte.
Oui, alors ça rapporte pas énormément. Ça rapporte pour chaque bouteille entre 10 et 40 centimes en fonction de la taille du contenant. Et en général, c'est cagnotté en bons d'achat, ce qui fait que le but, c'est de vous fidéliser, que vous repassiez commande. Mais tout de même, la plupart vous proposent de vous rembourser en monnaie cette fois si jamais vous ne comptez pas repasser commande.
Mais est-ce que ça fait vraiment faire des économies?
Bah, c'est vrai que à 10 à 40 centimes alors par bouteille, ça peut chiffrer au bout d'un moment. Le souci, c'est qu'en réalité, le prix initial de ces bouteilles-là pour la consigne, elles sont plus chères. En fait, il y a évidemment un truc à mettre, une logistique énorme de récupération des bouteilles, de nettoyage, de réétiquetage, de mise en service, qui fait que pour l'instant, et comme on en est encore au début de ce phénomène-là, ça coûte très cher et c'est le consommateur, les prix sont répercutés en fonction. D'autant que les jeunes entreprises dont je vous parle, ce sont des entreprises qui proposent du bio, des petites structures, donc elles ne peuvent pas concurrencer la grande distribution. J'ai quand même regardé sur le drive de Système U, la bouteille de Coca consignée est plus intéressante que la bouteille d'un litre en plastique. En revanche, ce n'est pas vrai pour toutes les marques, donc ce n'est pas tout à fait exact pour tout.
Est-ce que vous pensez que ça peut marcher un jour et que, allez, dans 10 ans, on rapportera tous nos bouteilles à la consigne?
Il y a quelques exemples encourageants, notamment une marque de bière qui s'appelle Météor en Alsace, qui le fait depuis 50 ans et qui a montré qu'à terme, en tout cas, une fois le dispositif bien mis en place, consigner les bouteilles en verre, ça coûte, et les réutiliser, les réemployer, ça coûte moins cher que d'en acheter des neuves, sachant qu'il y a quand même un vrai intérêt écologique à le faire, puisque une réduction de 79% des émissions de gaz à effet de serre issues par rapport à l'utilisation de contenants à usage unique. Le vrai problème, c'est que pour le moment, il n'y a rien d'obligatoire. La loi ne contraint pas la grande distribution à mettre en place ces consignes de verre. Et donc, c'est un petit peu difficile à mettre en place, sachant que plus il y aura de volume, plus ça sera économique. Mais pour l'instant, pour vous donner un chiffre qui n'est pas très encourageant, 10 millions d'emballages réemployés en 2024, c'est une prévision sur 90 milliards utilisés d'emballages utilisés chaque année. On est loin de l'objectif.
C'est une goutte d'eau, mais pour tous ceux qui voudraient rapporter leurs bouteilles en consigne, comment on fait pour savoir quel magasin propose ça?
Alors, il y en a un peu partout en France. C'est quand même la bonne nouvelle, si ça vous intéresse. Vous pouvez trouver forcément une initiative proche de chez vous. Je vais vous donner quelques exemples. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. En Ile-de-France, il y a donc la Tournée et 14 hypermarchés. En Bretagne, Champagne-Ardenne et Bourgogne, il y a Drink Dong. Le Fourgon est présent dans les grandes métropoles, Lille, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Suive en Normandie également. Donc vous voyez que ça couvre à peu près tout le territoire. Il y a aussi la consigne de Provence dans le sud.
Merci beaucoup Charlotte Méritant, et si vous voulez retrouver toutes ces infos, vous allez sur nos podcasts rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. C'est le bruit de l'argent.
Ça n'arrête plus, c'est l'alerte pour jouer au coffre RMC. En tout cas, pour vous inscrire, il y a jusqu'à 50 000 euros à gagner à partir de maintenant. Vous avez 5 minutes top chrono pour vous inscrire en envoyant coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
Charlotte, je ne vous ai pas demandé de quoi on parlait demain.
Vous savez que demain, c'est la journée nationale du fromage.
J'adore. C'est mon péché mignon, c'est ma passion.
Savez-vous qu'il y a une saison, il y a une saisonnalité?
Bien sûr, évidemment.
Donc on va parler de ça.
Écoutez, génial. Merci beaucoup, Charlotte. J'avais déjà adoré votre chronique sur le saucisson. Donc, je pense que je vais adorer celle sur le fromage. Il y aura les immanquables, Rémi, dans un instant. On parlera de quoi?
On va parler du niveau des enseignants dans l'école primaire. Il y a le magazine Marianne qui a réussi à se procurer une quinzaine de rapports de jury de concours.
Oui, ça laisse à désirer.
Ouais, je ne trouve pas de qualificatif. C'est inquiétant.
Vous avez juste le temps de la pub pour le trouver. On en parle dans un instant, juste après cette courte pause dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Dans cette dernière partie, on vous donne tous les jours les infos qu'il ne fallait pas rater. Voici tout de suite les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on démarre, Rémi, ses immanquables avec le niveau du jour.
C'est le magazine Marianne qui parle du niveau des candidats au concours de professeurs des écoles. Le magazine donc a pu étudier une quinzaine de rapports de jury du concours de recrutement des enseignants en école primaire. C'était pour l'année 2023. Et le constat est pour le moins inquiétant. Les évaluateurs notent notamment chez certains candidats des lacunes en grammaire, orthographe, mathématiques et déplorent une pauvreté des références culturelles. En l'occurrence, de nombreux aspirants professeurs citent, pour illustrer leurs propos, des émissions de télé-réalité ou encore des films de Disney et méconnaissent la culture littéraire et patrimoniale.
Terrible.
Robert Sebag.
Ah, moi, je trouve ça terrible. À l'époque, ça s'appelait instituteur, institutrice.
Oui.
Les gens étaient formés après le BEPC à l'école normale. Ils faisaient l'école normale et ils sortaient vraiment. Et là, il n'y avait pas... Aujourd'hui, on les appelle professeurs des écoles. Ils ont un bac plus je ne sais pas combien. Bac plus 5. Et on s'aperçoit que le niveau... Et là, vous parlez d'école primaire. Vous voyez les professeurs des collèges, le CAPES et tout. C'est partout. Il n'y a pas d'attractivité. Alors c'est vrai qu'il y a un problème d'attractivité, si vous voulez, mais il y a un problème également de formation. Il y a un problème de formation sur les méthodes pédagogiques. C'est tout ça marchait très très bien avec l'école normale. On veut revenir à l'école normale d'ailleurs.
Il y a encore, on peut encore être prof, être normalien et être être enseignant dans le secondaire. Mais sur la formation, je vous rejoins. Mais la seule question, c'est quid de ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là en bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5? Que ce soit pour les concours et UFM des professeurs ou au-delà, les gens en master. Aujourd'hui, moi je suis bien placé pour le savoir, je constate bien que dans le supérieur, il y a des gens, ils n'ont clairement pas leur place. Qu'il s'agisse du concours des professeurs, n'importe quelle matière ou n'importe quel diplôme. Il y a des gens, on en parlait la semaine dernière avec Daniel Riolo, on a donné le bac à tout le monde, maintenant 90% d'une classe d'âge a le bac. Résultat, tu vois en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année dans le supérieur, des gens, tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Et derrière, les conséquences, c'est que ça va décrédibiliser le diplôme. Dorénavant, on va dire qu'un bac plus 5, maintenant, ça vaut rien.
Plus de valeur.
Autrefois, on disait bac plus 5, c'est très bien.
Comme le bac tout seul.
Aujourd'hui, c'est dire bac plus 5, je vois une copie d'un.
Ça ne veut rien dire.
De quelqu'un qui est diplômé, qui est en cinquième année, donc qui a eu avant la licence et la maîtrise, qui est en cinquième année. Je lis sa copie, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que c'est que ce niveau risible, orthographique, grammatical, syntaxique, à tous les niveaux, c'est mauvais. Et cette personne, à la fin de l'année, pas avec moi en tout cas, mais à la fin de l'année, elle a un master.
Eh oui. Et le problème, c'est que c'est général. En fait, tout ça reflète le niveau général de la population française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai relisé il y a peu une carte postale envoyée par mon grand-père, petit paysan, qui était prisonnier en Allemagne. Mais c'était d'une réduction. Alors, il avait tout juste le certificat d'études. Mais c'était une langue absolument sublime. Sublime. Et c'était un petit paysan pauvre.
Mon père aussi.
Ce qui interpelle aussi dans le
c'est les références.
C'est les références culturelles. Concret pour donner. Donc, ils disent qu'il y a beaucoup de. Enfin, un certain nombre de candidats font des références à des films de Disney, à la télé-réalité, à des séries comme Glee.
C'est incroyable.
Pour argumenter. Dans un texte qui est censé un texte de rédaction littéraire, il y a un exemple très concret d'un candidat qui dit par exemple qu'il parle de l'acceptation de l'autre. Voilà, c'était le sujet. Et le candidat prend comme référence le fait que les animaux, selon lui, acceptent mieux que les hommes les différences entre espèces. Et il cite pour référence le livre de la jungle où Mowgli, le petit garçon, est accepté. De manière.
Alors après, livre de la jungle, excuse-moi, mais d'abord c'est Kipling, quand même.
C'est Kipling, il y a un livre. Là, c'est pas le bon exemple. C'est un livre.
Mais c'est Disney.
Mais c'est Kipling,
Disney.
D'abord.
Mais non, c'est Disney. À quel moment le candidat ne cite Kipling? Il cite le film de Disney où on voit Mowgli qui est très bien accepté par les animaux.
Pas le livre, il a pas pris le livre.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment trop peu pour être heureux. Voilà ce qu'il dit.
Non, mais c'est ce que dit le.
Mais oui, mais bien sûr.
Bon, bah c'est effrayant, ce que je vous dis, c'est de trouver une excuse.
Oui, c'est effrayant.
Mais à partir du moment où on a supprimé l'exigence, en fait, on a expliqué que l'orthographe c'était fasciste. Qu'en voulez-vous que les gens
personne n'a dit l'orthographe c'est fasciste.
Mais complètement. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on interdit aux profs avant quand tu faisais un devoir dans n'importe quelle matière, tu faisais le faute d'orthographe, on t'enlevait des points. Aujourd'hui, on t'enlève plus de points parce que au moins tu as déjà fait l'effort
de retourner en arrière. Face de personnes qui ont le bac plus 3 ou 4 là.
Alors là peut-être qu'il faut qu'elle soit fait et que le travail soit fait au collège ou en primaire dans le supérieur. Dorénavant là, j'ai les sujets des partiels de fin d'année, il est indiqué s'il y a plus de 10 fautes d'orthographe, c'est moins 2 dans la note.
Oui, donc voilà, c'est
un retour
en arrière. Ça revient.
Oui, mais ça revient. Heureusement, mais après, ça revient tout
le
temps.
Non, mais après, le problème, si on payait bien les profs, si à un moment. Mais non, mais si, je suis désolée, si le métier était rendu attractif, eh ben, il y aurait des candidats de meilleur niveau. Là, le fait, quand vous ne payez pas les gens, Quand vous pouvez, sans faire d'études, je veux dire, aujourd'hui, avoir des boulots 10 fois mieux payés que celui de prof, je suis désolée. Oui. Vous n'allez pas vers l'enseignement.
Oui, mais tu es d'accord avec ça, le problème. Malgré tout, c'est quand même des gens qui ont un bac plus 3, 4 et 5 qui vont s'inscrire au concours. Qu'ils soient ou mal rémunérés derrière, ils ont quand même un diplôme du supérieur. Au-delà de ça, oui, je te rejoins, ils sont très mal rémunérés, c'est vrai. Il faut combattre cette situation. Mais au-delà de ça, ces gens ont une licence, une maîtrise, un master, et citent en référence Disney, Netflix, télé-réalité et font des fautes à tous les mots.
J'entends. Nous allons passer à la marche du jour.
Effrayant. Il faudra enlever aux Franciliens leurs automatismes de transport. Déclaration de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, au sujet des possibles désagréments de transport, donc de déplacement, lors des JO. Elle poursuit. Nous misons sur l'intelligence collective, comme celle de s'arrêter une station de métro avant, par exemple. Il ne faudra pas avoir peur de faire un peu de marche. C'est bon pour la santé et on sera au mois d'août. Sans compter qu'un tiers des visiteurs auront entre 25 et 35 ans. On espère qu'à cet âge-là, certains peuvent marcher.
Elle a raison, Valérie Pécresse, ou ça vous choque, ses propos, frère Hermann?
Elle a vraiment envie que la liste Les Républicains aux Européennes s'effondre encore un peu.
Mais
plus.
Pourquoi je vois pas où est le problème. Non, je veux pas marcher.
Mais faut arrêter. Elle est là, on paye des impôts pour avoir un système de transport régional de bon niveau. Elle dit, que ça marche pas, c'est
pour
ça
dure deux marcher. Semaines.
Mais elle dit, si ça marche pas, vous n'avez qu'à marcher.
C'est
ce qu'elle dit.
En fait, si tu prends toute l'interview, elle te dit si par exemple il y a un événement à Trocadéro, plutôt que de t'arrêter à Trocadéro, soit la station sera fermée, mais comme c'est le cas lors des manifs, par exemple, et tu t'arrêteras une station plus.
Mais
c'est du bon sens.
Non, mais on a besoin de Valérie Pécresse pour comprendre ça.
Les gens
au quotidien le font. Les gens qui payent des impôts.
Alors ça devrait pas gérer.
Mais je veux dire, on a l'impression qu'elle a découvert les nues, puis qu'elle explique aux gens comme ça. Mais non, mais c'est l'infantilisation aussi un constat d'échec de sa part.
Il y a peut-être ça aussi, mais je rejoins Estelle. Effectivement, lui poser la question dans la conférence de presse. Quid des quartiers, parce que rappelons-le que pendant les JO, il y aura des quartiers entiers dans Paris qui sont fermés. Vraiment rouge. Donc elle précisait que pour celles et ceux qui habitent là et qui devront prendre le métro, sortez une station, deux stations avant. Et en plus, c'est le sport, l'importance de la pratique sportive, de la marche. Voilà, donc c'est sortez, mais parce que les stations seront fermées. Donc oui, effectivement, on peut critiquer ce propos. C'est du bon sens.
De toute façon, les Parisiens ne sont pas là. Donc ceux qui ont payé les impôts, comme tu dis, des impôts locaux, ils seront en vacances.
Ils sont pas là, ceux qui ont les moyens de partir, arrêter de penser.
Aujourd'hui, quand tu habites Paris intramuros, la plupart du temps,
Et d'ailleurs, s'ils habitent Paris intramuros, je pense qu'ils ont une carte mensuelle ou annuelle qui n'aura pas d'augmentation tarifaire.
Bah, il manquerait plus que ça. C'est la première chose que j'ai regardé.
C'est uniquement sur les tickets à l'unité. Les tickets à l'unité, c'est pas les Parisiens.
4 euros.
Les Parisiens vont pas subir l'augmentation.
Non, mais moi, j'ai regardé surtout ça. Moi, j'ai un abonnement Navigo mensuel.
Il n'a pas
bien regardé si en juillet en août.
Je n'allais
pas me faire avoir encore une fois.
Il manquerait plus que tu payes pour les touristes.
Si tu payes plus cher, ça passe à 150 et on te demande de descendre deux stations avant.
On ne sait jamais, hein.
Ouais. Ça va durer. T'as raison.
Robert, vous partez en vacances pendant les JO ou vous restez ici à Paris pour profiter?
Une partie, je resterai ici, une partie en vacances.
Vous marcherez.
Mais ça me dérange pas du tout, mais j'ai pas besoin de Valérie Pécresse pour marcher,
Je suis assez d'accord avec vous. Le business du jour.
Allez, il fallait s'y attendre. À peine distribuer les pièces de 2 euros qui ont été offertes aux élèves du CP et au CM2 à l'occasion des JO de Paris, pièces commémoratives, se revendent déjà à prix d'or sur Internet. Sur les sites de revente en ligne, les annonces se multiplient proposant ces pièces commémoratives frappées par la monnaie de Paris à parfois plusieurs centaines d'euros.
Et quelle idée formidable, Pierre Rondeau, d'avoir donné des pièces à des enfants, donc de maternelle, donc ils ont moins de 6 ans. Et ça a quand même coûté, je crois, 50 millions. Je crois que c'était 46 millions.
16 millions d'euros.
Mais imaginez, c'est quoi ce ministère de l'Éducation, des Sports? Imaginez en brainstorming, les gars, venez, on donne des pièces de 2 euros à des enfants.
Ils les garderont toute leur vie.
Ils les garderont, mais des pièces, des médailles. Des médailles, ça aurait été génial.
Ouais, c'est vrai.
Mais là, des pièces, je donne littéralement de l'argent en pensant naïvement qu'ils vont les garder toute leur vie. Comme Picsou qui va garder sa pièce magique.
Mais arrêtez. Moi, j'aime bien l'idée.
Mais des médailles, je veux bien. S'ils avaient donné des médailles.
Une médaille commémorative, c'était différent.
Une pièce de 2 euros.
Alors après, est-ce qu'il y a eu, de la part des professeurs, une explication?
Une médaille.
Il y avait un kit pédagogique.
Les profs n'étaient pas au courant au départ.
Ça. Ah bah ça, c'est ça a créé. Ils l'ont découvert au dernier moment
et il y avait un petit livret qui accompagnait la pièce. Voilà.
Bah, les profs
et,
qui se payent leur salaire.
Un petit souvenir des JO.
Millions pour les pièces.
Un petit souvenir des JO frappé par la monnaie de Paris. Je trouvais ça
pas
idiot.
Une médaille, un pins.
Le rôle de l'argent chez les enfants, il est de plus en plus important. Tu leur donnes 2 euros, ils disent je vais aller acheter quelque chose ou je vais voir.
La plupart, ils l'ont claqué à la boulangerie.
Non, les parents leur disent tu me les gardes, moi je t'en donne 4, mais tu me donnes la pièce.
Voilà, moi j'aurais pris la pièce des gosses, ça c'est sûr. Voilà.
Mais mentalité.
Bah non, mais.
Non, mais c'est incroyable. 2 euros, je te les donne.
Et le pire, c'est qu'ils devaient garder les pièces dans des endroits évidemment tenus un peu secrets, parce que sinon t'avais des risques de cambriolage.
Et les troisièmes, t'es les raquettés aussi derrière.
Non, mais enfin, c'est. Enfin voilà, l'idée même de la. Bah, de...
L'exemple même de la mauvaise idée. Une seule seconde en brainstorming, en réunion. Eh les gars, venez, on donne une pièce. Non, mais à quel moment les mecs se disent. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais.
Je sais pas. Fonctionnaires comment, qui ont beaucoup plus que Bac plus.
Vous avez raison. Comment a été prise la décision? Moi, ça, j'ai trouvé ça.
Bah, moi, j'aimais bien.
Et après, on cherche à faire des économies. Alors que, tiens, oh, là, par exemple, bon, si on aurait pu s'en passer. C'est comme le bonus réparation. Ça, c'est des trucs. On peut s'en passer. Ça coûte pas très cher,
petit pas
mais.
Par petit pas.
Mais oui, exactement. Voilà. Sous par sous, Frédéric, pour réduire ces
difficultés. Il y a pas de petites économies.
Exact. Oui, on va tous les faire là ou comment ça se passe? Allez,
on va tout de suite. Les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Exactement. Et Pierre qui roule. Bref, on va tout de suite accueillir Vincent Cerroussi, notre humoriste. Cerroussi n'a pas tout compris. C'est tout de suite.
La pauvre.
RMC Estelle Midi.
Cerroussi n'a pas tout compris.
Bonjour Vincent.
Bonjour Estelle.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, Vincent, oui, vous ne comprenez pas pourquoi on veut annuler la cérémonie d'ouverture des JO à cause des alertes attentats.
Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On était déjà en alerte bordel, gros merdier, fin du monde. Maintenant, c'est alerte attentat. Les JO, je sais pas, les objectifs, ça va pas être de ramener des médailles, ça va juste être de rester en vie, hein, franchement. Non, mais bon, c'est sûr qu'après, les attentats peuvent avoir directement un effet sur les jeux, hein, avec tous les coups de feu. Il va y avoir beaucoup de faux départs sur le 100 mètres. Ça, je vous le dis. Ça va être une petite galère. Non, bah, ils veulent même réquisitionner des sportifs pour la sécurité. Écoutez, on pourra même pas voir Teddy Riner combattre. Enfin, si, entre la porte J et H du Stade de France. Enfin, bon, voilà, c'est chiant, quoi.
Mais Vincent, vous avez peur, vous, du risque d'attentat?
Non, moi, ce qui me fait peur, c'est pas le risque. Ce qui me fait peur, c'est que celle qui est censée nous protéger, c'est Anne Hidalgo. Ça me fait peur. Son combat, c'est les SUV et les trottinettes. Tu lui mets des terroristes dans une Renault Zoé avec la bonne vignette critère, elle les laisse passer, c'est sûr. Ça me fait très, très peur. Moi. Je suis pas sûr, hein.
Mais alors, est-ce qu'il faut annuler la cérémonie des JO qui aura lieu sur la Seine?
Écoutez, une cérémonie sur la Seine entre la guerre en Ukraine, en Russie, en Israël, ça va finir en bataille navale, le truc, laisse tomber. Russie en A2, Darmanin en A3, Hidalgo touché, JO coulé. Après, LFI voulait aussi annuler la cérémonie d'ouverture sur la Seine, mais pour d'autres raisons. Ils ont dit, vous voulez mettre des étrangers sur des bateaux, vous n'avez pas honte, xénophobe, c'est scandaleux.
Vincent, dans STM, on s'est aussi demandé s'il fallait espionner le portable de son conjoint, si c'était normal ou malsain.
Ben oui, écoutez, lire les SMS dans le dos de son conjoint, les Anglais ont inventé un terme, hein, ça s'appelle le snooping. Ouais. Ben, mon ex, elle appelait ça le moment où Vincent prend sa douche. c'était un peu trop long, je pense. Alors que vous l'avez dit, 4 Français sur 10 en couple admettent avoir déjà fouillé dans le téléphone de leur partenaire. Bon, pour le coup, c'est pas moi. Moi, je suis un peu trop résigné. J'ai pas de copine.
Oui, voilà.
Ça peut pas être Robert non plus, trop vieux. Il a pas de portable. Une fois, j'avoue, j'ai quand même fouillé dans le téléphone de ma copine. Oui, bah, mais j'aurais pas dû. C'était une fille sérieuse. En plus, elle était très sportive. Et oui, je dis sportive parce qu'en fouillant dans son téléphone, j'ai découvert qu'elle prenait des cours particuliers de Zumba avec Fred tous les mardis de 23h à minuit. Et j'étais très content pour elle parce que je sais que Fred est un très bon danseur. Ça t'a plu?
Oh, merveilleux.
Merveilleux. Merci, Fred.
Vous n'encouragez quand même pas les gens à fouiller dans le portable de leur conjoint.
Alors écoutez, pour préparer cette chronique, je me suis permis de fouiller un petit peu dans vos téléphones. J'ai fouillé dans votre téléphone, Estelle, j'avoue. Ouais. Je suis tombé sur une blindée, beaucoup de messages de Fred qui demandait « Tu préfères moi ou Thierry Moreau ?» C'est moi le... C'est qui le meilleur chroniqueur? Dis-moi. On en apprend beaucoup sur les gens. J'ai aussi fouillé le portable de Pierre. Hein. Je suis tombé sur un message vocal intéressant, une certaine Sarah.
Salut Pierre, je voulais te remercier pour la soirée qu'on a passée hier ensemble. Je suis tellement contente que tu sois mon meilleur ami, quoi. Je sais qu'au moins avec toi il se passera rien de rien. Je sais que c'est pas du tout ce que tu cherches. Oups, attends, il y a mon mec qui arrive. Il t'embrasse.
Voilà, encore une bonne copine pour Pierre. Je suis content pour toi, mon Pierre.
Voilà. Faites quand même attention, hein, Vincent, parce que vous savez que fouiller le téléphone d'une personne est pas cible de poursuite pénale.
Et fouiller le téléphone de son partenaire, c'est vrai, ça peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. J'y crois pas trop.
Non.
Ouais, non, non. Attends, t'imagines la discussion en prison. T'es là pourquoi, toi? Double meurtre. Et toi? Moi, j'ai fouillé dans le téléphone de ma meuf en 2015. Pas très crédible, hein. Non, vous pouvez fouiller, mais juste soyez malin. Parce que c'est vrai que t'en as qui se crament tout seul, quoi. Le mec qui reçoit des appels de Jérôme de la Comta. alors qu'il est au chômage. Ouais. Bon, et que Jérôme, il a une voix de meuf. Bon, bah, vous êtes grillé. Allez bosser chez Google. Vous aurez le droit de fouiller le téléphone de votre meuf et sans prendre d'amende en plus. Hein.
Merci beaucoup, Vincent Siroussi, tous les jours dans Estelle Midi à 14h50 en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Et bien sûr, demain soir, en live, le spectacle de Vincent au théâtre du Point Virgule à 19h à Paris. Et tout de suite, on accueille un autre Vincent Moscato. Le super Moscato Show. Vincent qui arrive en jogging. Ah oui, mais ah oui. Ben ça va, c'est
bonjour,
on est en look
week-end.
Ouais.
Oh,
c'est bien.
T'es en forme ou quoi?
Ouais, pas mal.
Bon, alors, le super Moscato Show, 3h. Wow. Voilà, 15h, 18h, c'est comme ça. Mbappé siffle à Marseille. Est-ce que ça vous choquerait si Mbappé était sifflé? Vous m'en foutez. Hein.
Non, mais j'ai l'impression que c'est la fille.
Il y a Sanchez qui revient. Méfie-toi un peu. Puis les Anglais qui débarquent en top 14. Beaucoup de joueurs internationaux anglais débarquent en top 14. Ouais, ça peut pas mal. Ça peut mieux. Puis là, je sais pas, avec le Brexit, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Et puis le choix du porte-drapeau devient-il délicat?
Oui.
Ah oui. On va prendre qui?
On va prendre qui? Je sais pas, moi.
Et sinon.
Je sais pas, Karabatic, c'est pas possible. Ils ont fait des critères de
moi,
sélection.
Moi, je prends difficile.
Léon Marchand.
Ah ouais, bien.
Non, mais il a jamais fait la
belle. Jamais fait,
Il faut que ça soit une récompense.
Il a des mecs qui ont fait mal, il a gagné.
C'est le symbole de la France, attends. Non, je suis.
Ah ouais, c'est bien, bonne idée.
Une bonne idée. Mais il ne pourra pas.
Merci,
ben voilà.
Tu la donneras, mon idée, ou pas?
Ouais,
j'ai déjà appelé pour la donner, je me suis fait.
Ah, pas. Oui, vas-y, t'as fini.
J'allais te teaser.
Non, mais c'est bon, alors tease-moi.
Si tu veux quand même. Non. Vincent Moscato, le super Moscato Show, c'est tout de suite sur RMC 15h-18h. Et nous, on se retrouve demain dans Estelle Midi 15h. Salut à tous et bonne fin de journée sur RMC.